Madame Rico.
Alors, il y a beaucoup de questions. Alors, j'ai une question sur le méthotrexate. Alors, le méthotrexate, effectivement, ça fait, j'en ai pas parlé. C'est un traitement qui est un petit immunosuppresseur qu'on utilise, qui est un traitement comprimé et qu'on utilise dans certaines situations où il n'y a pas d'autres possibilités de traitement. Alors effectivement, la question c'est est-ce que ce traitement peut avoir une incidence sur la perte de cheveux ou la qualité des cheveux? Oui, c'est un traitement qui peut influencer un petit peu la qualité des cheveux. Et par contre, la question c'est est-ce que le Fempyra peut être responsable? A priori, non, pas fréquemment en tout cas. Tout est toujours possible avec les médicaments, mais ça ne fait pas partie des effets secondaires classiques pour le Fempyra. Alors après, j'ai une question pour le syndrome des jambes sans repos. Alors, est-ce que ça a un lien avec la sclérose en plaques? Un syndrome, c'est un ensemble de symptômes qui peut être lié à plusieurs maladies et qui peut avoir plusieurs causes. Donc oui, le syndrome des jambes sans repos, on peut avoir ce type de symptômes au cours de la sclérose en plaques. C'est un des symptômes possibles. Alors, ça peut être lié à la spasticité ou ça peut être lié aux douleurs neurologiques. Donc, on va donner des traitements soit contre les douleurs neurologiques, soit contre la spasticité. Et parfois, on peut être amené à donner un traitement spécifique du syndrome des jambes sans repos, qui est un traitement de type anti-parkinsonien. Voilà, ça peut arriver. Ça dépend un petit peu de l'interrogatoire et de l'examen clinique. Il faut bien vraiment préciser les symptômes. J'ai des questions. Alors, est-ce que la myéline se reconstruit naturellement? Donc, oui, il y a bien sûr, heureusement, des phénomènes de remyélinisation. C'est aussi pour ça qu'on récupère des poussées. Alors, c'est vrai qu'on ne sait pas pourquoi certaines personnes ou certaines lésions remyélinisent mieux que d'autres. Donc ça, c'est effectivement une piste de recherche pour déterminer qu'est-ce qui favorise la remyélinisation. Alors, pour l'instant, on n'a pas encore de traitement à courte échéance pour la remyélinisation. Mais il y a des travaux en cours, ça, c'est sûr. Donc ça arrivera un jour, mais pas à court terme, probablement pas dans les 5 ans à venir. Quand même. Voilà. Alors après, il y a une question par rapport aux vaccinations, au lien entre vaccination et sclérose en plaques. Donc c'est vrai qu'il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de travaux qui ont été menés, parce que c'était vraiment une question qui se posait, parce que certaines personnes ont pu faire une poussée quelques temps après un vaccin. Donc on s'est posé la question d'abord du lien entre un vaccin et une poussée. Et en fait, il y a un seul vaccin pour lequel il y a un doute actuellement, c'est le vaccin de la fièvre jaune, qui est un vaccin vivant, qui est fortement stimulant et qui pourrait augmenter le risque de poussée au décours. Mais c'est le seul vaccin. Tous les autres vaccins, il n'y a vraiment aucune augmentation du risque de poussée après les vaccins. Ça, c'était la première question. Après, la question qui se posait, c'est est-ce qu'il y a un lien entre un vaccin et l'arrivée de la maladie? Et donc, ils ont suivi des grandes populations de personnes vaccinées d'un côté, non vaccinées de l'autre. Et il y a eu autant de sclérose en plaques dans les deux groupes. Et vraiment, on ne retient pas de lien entre l'arrivée de la sclérose en plaques et la vaccination. Donc vraiment, la vaccination, ça protège contre des maladies qui peuvent être mortelles, comme la rougeole. Et donc vraiment, nous, on encourage les personnes et l'entourage des personnes atteintes de sclérose en plaques à bien réaliser les vaccinations. Alors, il y a quand même des précautions. Donc, à part la précaution par rapport à la fièvre jaune, il y a une précaution par rapport aux traitements qu'on a. C'est-à-dire que si on a des traitements de deuxième intention ou même les traitements de première intention nouvelle génération, les comprimés, c'est des traitements qui modifient l'immunité. Et donc, on ne peut pas faire de vaccins vivants. C'est-à-dire qu'il y a certains vaccins qui sont des vaccins vivants. C'est-à-dire que c'est le microbe un petit peu affaibli qu'on vous administre en petite quantité pour que vous développiez des défenses. Et donc, quand on a un traitement qui modifie l'immunité, ces vaccins vivants peuvent provoquer une mini-maladie, comme une mini-rougeole ou une mini-varicelle. Donc, ces vaccins, c'est le vaccin contre la rougeole et contre la varicelle. Donc, vaccin contre la rougeole, contre la varicelle. La fièvre jaune aussi est un vaccin vivant, pas avec des traitements qui modifient l'immunité. Donc, ça, c'est une précaution, mais c'est par rapport au traitement, c'est pas par rapport à la maladie. Si vous n'avez pas de traitement, et que vous avez juste une sclérose en plaques non traitée, là, il n'y a pas de contre-indication avec ces vaccins.
Donc la question, c'est quelle relation entre la CEP et l'intolérance au gluten? Est-ce que le terrain est identique? Alors, donc, pour répondre d'abord directement, il n'y a pas de lien direct entre la sclérose en plaques et l'intolérance au gluten. Donc la vraie intolérance au gluten, c'est une maladie qu'on appelle la maladie cœliaque, qui est une maladie auto-immune, au même titre que la sclérose en plaques et que d'autres maladies auto-immunes. Donc, probablement qu'il y a un terrain qui n'est pas identique, mais qui peut prédisposer à des maladies auto-immunes. Et certaines personnes vont développer plusieurs maladies auto-immunes Voilà, parce que probablement qu'il y a un petit peu des facteurs génétiques qui entrent en jeu dans le système immunitaire et qui sont communs, ou des facteurs environnementaux aussi qui sont communs et qui peuvent dérégler le système immunitaire. Mais il n'y a pas de lien direct entre ces maladies, même si chez une personne qui a une maladie auto-immune, parfois il y a un risque plus important de développer d'autres maladies auto-immunes. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à la question.
Donc il n'y a pas besoin de régime sans gluten contre la sclérose en plaques.
Question d'actualité sur le déremboursement de la biotine, qui s'appelle le Cuisandé, qui est un médicament très simple. Hein, c'est une vitamine du groupe B qui est utilisée à forte dose. Après une étude qui a montré que dans un pourcentage faible de cas de personnes qui ont une sclérose en plaques progressive, cette molécule pouvait améliorer, donc pas ralentir la progression de la maladie, mais améliorer la maladie au sens d'améliorer le handicap. Pourcentage de l'ordre de 20%. Ça veut dire que 80% des personnes ne répondent pas à ce traitement. Donc ce traitement est disponible jusqu'au 14 avril sous une forme très particulière qu'on appelle une autorisation temporaire d'utilisation, une ATU, une demande nominative auprès de l'agence du médicament pour chaque personne et une distribution du produit au niveau des pharmacies hospitalières. Le ministère et l'agence ont décidé d'interrompre l'ATU au 14 avril, donc ce médicament ne sera plus remboursé. Donc n'existera plus au sens de pouvoir l'utiliser dans l'attente du résultat de deux études qui sont menées aux États-Unis et qui ont été demandées par les agences, notamment américaines, concernant cette efficacité qui avait été démontrée dans une étude française. Donc jusqu'à ce qu'on dispose des résultats qui seront peut-être positifs des études en cours, le médicament ne sera plus accessible. Parce qu'il coûtait quand même très cher, hein, près de 2000 euros la boîte par mois. Et oui, madame, 2000 euros par mois la boîte. Donc c'est sûrement la raison qui a fait que le ministère a décidé de rompre l'ATU. Est-ce que les greffes de cellules souches existent en France ? Vous avez compris que sur le papier, non, puisque ce n'est pas un traitement reconnu. Donc ce n'est pas un traitement qui dispose d'une autorisation d'utilisation. Il n'est pas positionné dans les recommandations. Mais bon, il y a un certain nombre de personnes qui ont été greffées en France dans cette indication-là, comme dans d'autres pays, mais de façon, entre guillemets, non autorisée. Je veux juste faire passer le message de faire très attention à un certain nombre de cliniques, notamment en Allemagne, en Russie et en Asie, qui, sous la modique somme de 20, 30, 40 000 euros, pratiquent une autogreffe de cellules souches, probablement comme exactement ce que je vous ai montré. Donc voilà, ce sont des choses qui ne sont pas reconnues. Et puis aller se faire greffer en Asie, ça rend compliqué le suivi quand même. Hein. Parce qu'une greffe nécessite un suivi. Et un suivi très rapproché par l'équipe de greffeurs qui connaît très très bien les potentiels problèmes liés à la greffe avec les infections, les traitements utilisés. Ce sont souvent des patients qui vont continuer le traitement antibiotique, antiviraux pendant très longtemps, le temps que le système immunitaire se remette en place, parce que même si on est protégé dans une chambre complètement stérile, c'est impossible d'éliminer tout agent extérieur. Donc il y a toujours des infections qui sont, on l'espère, le plus souvent banales, mais qui nécessitent des traitements qui sont poursuivis très longtemps. Donc ça nécessite un suivi, et quand même aussi un suivi neurologique, sur l'impact de la greffe, l'IRM, etc. Donc c'est un suivi qui doit être effectué dans des équipes qui connaissent les patients et pas qui se situent à 15 000 km et pour 45 000 euros. Le coût de la greffe en France, tout compris, si on peut dire, c'est 50 000 euros, pris en charge par la Sécurité sociale dans les indications qui sont bien évidemment reconnues comme telles. Voilà, donc soyez attentifs parce qu'il y a de la publicité sur Internet et certaines personnes sont allées se faire greffer ailleurs. Mais il y a des patients français qui ont été greffés dans les centres de greffe français pour des indications parfois particulières parce que c'était malheureusement des personnes qui répondaient à aucun traitement et on voyait bien que la maladie est en train de partir très 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 vite et on a dérogé à l'interdiction d'utiliser la greffe en accord avec les équipes d'hématologie qui s'occupe des greffes, et en accord aussi avec une espèce de cellule qui a été mise en place à Paris dans les maladies auto-immunes, pour les greffes d'un service d'hématologie où les dossiers sont discutés, validés en visioconférence et qui permettent de retenir ou pas retenir l'indication, ensuite d'aller à la greffe avec toutes les certitudes qu'on peut essayer de poser.
Alors, j'avais une question sur le risque de complications avec ce fameux virus JC. Donc, c'est vrai qu'on en parle, enfin, c'est un risque qui est important avec le Tisabri. On estime de l'ordre de 1 à 3% des personnes porteuses du virus JC sous Tisabri au-delà de 2 ans. Donc, c'est un risque très, très important. Alors, après, c'est vrai qu'on peut trouver des informations sur ce risque avec les autres traitements de la sclérose en plaques. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que cette complication, elle peut arriver même chez des personnes qui n'ont pas de traitement et qui n'ont pas de maladie auto-immune. C'est plus fréquent chez des personnes qui ont des traitements qui modifient l'immunité, aussi pour d'autres problèmes de santé. Alors, en ce qui concerne les traitements de la sclérose en plaques, c'est vrai qu'il y a eu des personnes qui avaient d'autres traitements contre la sclérose en plaques et qui ont développé cette complication avec ce virus, mais avec un risque extrêmement faible, c'est-à-dire que c'est, par exemple, une personne sur 100 000 personnes traitées, ce qui n'est pas du tout du même ordre que 1 sur 100, 1 ou 3 sur 100 par rapport au Tisabri. Donc on ne peut pas mettre tous les traitements au même niveau par rapport à ce risque. Et ça, c'est pas clairement... On trouve des informations qui peuvent être imprécises et qui peuvent provoquer de l'inquiétude. Le risque est extrêmement faible avec les autres traitements. C'est un risque qui existe aussi pour la population générale, mais qui est extrêmement faible. Voilà. Alors qu'avec le Tisabri, c'est un risque qui est important, donc c'est pour ça qu'on en tient compte. Voilà. Pour les autres traitements, c'est exceptionnel ici, mais je pense qu'il ne faut pas s'en inquiéter. En fait, il n'y a pas de lien direct entre la sclérose en plaques, le diabète et les troubles de la coagulation, c'est des choses différentes. Pareil, on trouve des patients qui ont malheureusement l'association entre un diabète de type 1, qui est un diabète auto-immun, et une sclérose en plaques, probablement du fait de l'association de maladies auto-immunes. Mais c'est exceptionnel. C'est des mécanismes différents. Et c'est voilà, des associations très rares.
La question, si c'était la fréquence de ces troubles par rapport à la sclérose en plaques, il n'y a pas lieu d'être inquiet lorsqu'on est atteint de sclérose en plaques, de faire plus fréquemment un diabète et ou des problèmes de coagulation. Hein.
Merci. Et après, j'ai une dernière question sur le cannabis thérapeutique. Alors, c'est vrai qu'on sait que le cannabis peut être utile contre la douleur, de manière générale, parce que ça peut être c'est utilisé dans les pays nord-américains, notamment pour les douleurs et les effets secondaires des traitements en oncologie. Pour la sclérose en plaques, on sait que ça peut améliorer les douleurs neurologiques et ça peut améliorer la spasticité. Donc, on a un traitement qui s'appelle le Sativex, qui est un traitement en spray, qui est à base d'extraits naturels de cannabis, qui a la MM européenne, mais dont on n'arrive pas, qu'on n'a pas en France. Au départ, c'était pour des problèmes de législation, parce que c'était classé dans les stupéfiants, mais ça a été amélioré. Et maintenant, c'est un problème d'accord entre le laboratoire qui produit les médicaments et l'agence du médicament. Ça ne peut pas se mettre d'accord sur le remboursement. Donc oui, pour la sclérose en plaques, on le sait. Alors là, il y a eu pas mal d'avis de presse, parce qu'il y a une étude qui va probablement débuter, mais pour la maladie de Parkinson, dans la sclérose en plaques, il y a déjà eu des études et on sait que c'est efficace, puisqu'il y a l'autorisation de mise sur le marché pour ce médicament. Par contre, on n'a pas accès à cause du problème de remboursement, de non-accord entre le laboratoire et le remboursement. Alors, c'est vrai que c'est ennuyeux. Alors, il y a les associations de patients qui sont très mobilisées, je crois qu'ils portent ça, Madame Delaine, régulièrement.
Ouais. Oui.
Madame la ministre s'en occupe, nous a-t-on dit.
Préparé.
Oui, c'est vrai.
Donc on espère que ce sera un atout, voilà.